France Culture.
Bonjour le Book Club, bonjour Anne Serre. La lecture de Vertu et Rosalinde m'a particulièrement réjoui. J'ai vraiment enchaîné la lecture de ces historiettes, comme vous aimez à les appeler, avec délectation. J'étais charmé par leur caractère inattendu, insolite, même si parfois elles peuvent être plus sombres ou menaçantes. L'ensemble m'a vraiment ravi et surtout j'ai beaucoup ri.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Ce n'est pas tous les jours qu'on rit en lisant et c'est un considérable cadeau. J'ai tellement ri moi aussi, ému par le nouveau livre d'Anne Serre parce qu'il est alerte, irrévérencieux, tour à tour érudit, intelligent, ami, honnête, menteur, joueur. C'est un livre joueur au programme de votre book club aujourd'hui. 33 séquences, une narration à l'identité éclatée et changeante. On y voit se dessiner au fur et à mesure un esprit plus qu'un personnage, une forme donnée à la vie. Avec ce qu'il faut de distance et ce qu'il faut d'attachement aux humains, comme aux mots, comme aux situations, et des noms de personnages qui sont déjà toute une histoire, je pourrais rajouter littéraire. Rien dans cette allure vive du livre ne se prive des morts, au contraire, c'est peut-être de les fréquenter comme les autres que la narration d'Anne Serre épuise cette énergie. Elle est notre invitée, on finira en musique et nous voilà ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Anne Serre.
Bonjour Marie Richeux.
Vertu et Rosalinde, c'est le titre de ce livre. Il a paru aux éditions Mercure de France. Bienvenue dans le Book Club. Il a figuré dans la dernière sélection du prix Médicis 2025, dans la deuxième sélection du prix Femina 2025, celle du prix Décembre, celle du prix Vepler. Vos romans sont par ailleurs traduits dans différents pays, dont les États-Unis, où vous fûtes finaliste de l'International Book Prize. Voilà pour les médailles. On les donne pas toujours, mais ça fait plaisir. Soyez la bienvenue dans le Book Club. On est ravis de vous recevoir. Il y a plusieurs livres qui apparaissent dans le vôtre, notamment des livres en train de s'écrire, en train de s'inventer. Et même quand elle parle du rapport aux femmes, elle semble parler de la littérature, dit une des narratrices d'une de ces séquences de narration. Ici, le Book Club commence toujours par un portrait de lecteur. On imagine qu'on fait d'abord connaissance avec nos invités en les faisant parler des livres qu'ils ont rencontrés ou pas sur leur chemin. Il y a aussi pas mal question de chemin dans votre livre. Alors, est-ce que vous diriez que votre chemin a été pavé de livres, Anne Serre?
Oui, plus que de bons sentiments, probablement.
Ouais. C'est bonne ou mauvaise nouvelle?
Non. Mon chemin a été pavé de livres, parce que j'ai eu la chance de venir au monde dans une famille, enfin une cellule familiale en tout cas, où on lisait beaucoup. J'avais un père professeur de lettres qui aimait beaucoup la littérature, donc il y avait beaucoup de livres à la maison et on lisait parce que c'était une époque aussi où on lisait. Mmh. Voilà, donc j'ai commencé très tôt, mais il s'est passé pour moi quelque chose de particulier que je ne m'explique pas du tout d'ailleurs, qui reste un mystère, mais c'est probablement le mystère de tous les gens qui écrivent, c'est que j'ai vraiment subi un rapt de la part de la littérature très tôt, c'est-à-dire dès que j'ai commencé enfant à lire La Comtesse de Ségur, qui m'a ravie, et puis Le Club des Cinq, enfin bref, comme tout le monde, au lieu d'être simplement dans le plaisir et la joie, j'ai été soulevée, enfin, vous voyez, comme on voit sur certains tableaux d'enlèvement de je sais pas qui, j'ai été ravie, soulevée, transportée, déplacée, voilà. À ce moment-là, j'ai été déplacée, tout de suite. J'ai été déplacée par la fiction.
Avec la conscience de l'être ou pas? Parce que ça, vous pouvez le dire quelques petites années après.
Oui, tout à fait, vous avez raison. Non, pas du tout avec la conscience de l'être. Moi, j'ai cru pendant très longtemps que je vivais dans un monde que partageaient les autres. Et j'ai mis très très longtemps à me rendre compte, c'est même assez récent finalement, j'ai mis très longtemps à me rendre compte que non, il y a d'autres gens qui vivaient sur un autre plan et qui n'étaient pas comme ça, comme vous le disiez tout à l'heure, amis et familiers avec les morts, avec les... C'est ce que m'a fait la littérature, et la littérature a fait ça très tôt sur moi.
Ce serait intéressant pour une fois d'ailleurs d'essayer de définir l'autre monde Alors, ces gens qui ne vivent pas comme vous, avec les livres, en amitié, ils vivent où ? Vous dites sur un autre plan, ça ressemble quoi, d'après vous, la vie des autres ?
Non, je ne sais pas, parce qu'en même temps, c'est très... on ne peut pas séparer les choses en deux, dire les autres, et puis ceux qui écrivent.
Ceux qui lisent.
Oui, ça serait idiot. Ça serait idiot. Il y a évidemment mille situations, mille manières d'être au monde. Et d'ailleurs, il y en a qui sont bien aussi intéressantes que d'être écrivain. Donc, non, il n'y a pas évidemment ce partage comme ça. C'était... Oui, il y a une manière de vivre peut-être ceux qui ont une tendance comme moi, ou une, plus qu'une tendance, qui ont fait alliance avec la fiction, d'une certaine manière, ne sont pas peut-être pas touchés tout à fait comme les autres, qui n'ont pas, eux, fait alliance avec la fiction. Ils sont peut-être pas touchés exactement de la même manière par les événements de la vie. C'est-à-dire aussi bien les événements douloureux que les événements heureux. Mais je pense plutôt aux événements douloureux. C'est-à-dire qu'il y a une manière de vivre dans la fiction qui veut pas dire vivre dans un monde parallèle. C'est pas ça, hein. On le définira plus tard. Ça veut dire autre chose, bien sûr. Mais qui fait que peut-être les choses qui sont très difficiles pour certains ou le sont moins, comme si c'était une armure, le monde de l'imagination, et pas seulement de l'imagination d'ailleurs, parce que ça, les enfants l'ont par exemple, le monde de la langue. Là, je pense que la langue est une merveilleuse armure. Oui.
Mais dont tout le monde ne disposerait pas.
Non, parce que je pense qu'il faut l'aimer, il faut l'aimer avant tout. Il faut être avec elle à bras le corps sans cesse. C'est pas partagé par tout le monde. Non, je crois pas.
Et alors, vous faites bien la distinction de vivre dans la fiction, Anser, qui ne serait pas vivre dans un monde parallèle. Alors, qu'est-ce que c'est vivre dans la fiction ?
Alors, excellente question, à laquelle il n'est pas facile de répondre. C'est une manière de vivre dans laquelle on traduit tout. C'est-à-dire tout ce qui est vu. C'est comme une espèce, comme si on était une espèce de traducteur permanent. C'est-à-dire tout ce qui est vu, tout ce qui est vécu, tout ce qui est entendu, tout ce qui est ressenti, est traduit aussitôt dans une autre langue. C'est un peu ça, vivre dans la fiction. C'est cette conversion. Tout est converti. Une espèce d'alchimie qui se fait comme ça, naturellement.
Et qui s'appuie sur les langues qu'on a lues. Les textes qu'on a lus.
Oui, qui s'appuie sur la lecture.
La capacité à cette traduction, voire le désir de cette traduction, elle se fait parce que on a rencontré des textes, parce qu'on a vécu la lecture.
Absolument, absolument. Et non seulement parce qu'on a rencontré des textes, mais parce que on a cessé de rencontrer des textes et que c'est comme une espèce de nourriture permanente. Une espèce de nourriture sacrée, d'ailleurs, parce qu'il faut que la nourriture soit sacrée pour qu'elle vous permette une espèce de
d'opération magique.
D'opération magique, pareil. Donc, il faut que la nourriture soit sacrée, d'une certaine manière. Donc, il faut être nourri en permanence de cette nourriture-là.
Oui. Et le « en permanence », ça veut dire, Anser, qu'il n'y a pas de moment dans votre vie où vous avez arrêté de lire ?
Non.
Ou peu lu ?
Non. Non. Non, ça peut m'arriver... un mois en vacances, parce que c'est l'été, alors je profite plutôt de la nature et plutôt de l'extérieur et plutôt... Mais en fait, je continue à lire parce que je lis le paysage, je lis le lac et je lis les prés comme si c'était un texte. Donc, voilà. Mais en tout, voilà, je lis peut-être un petit peu moins de livres pendant un mois l'été. Peut-être.
Ouais. Mais vous êtes fondamentalement une lectrice du monde.
Oui, je pense que c'est... Je pense que d'ailleurs, c'est un peu la seule chose que je sais faire. Lire. Et du coup, écrire, mais c'est la même chose. Mm-hmm. Mais au monde, ce que je fais le mieux, enfin là où j'ai des capacités, c'est pour le lire. Oui.
Qui vous a appris ?
Ce sont les narrateurs des livres qui m'ont appris ça. Ce sont tous ces narrateurs que j'ai découverts depuis ma première lecture et qui m'ont tellement fascinée. Parce que ce ne sont pas les auteurs qui m'ont tellement fascinée. Bon, bien sûr qu'il y a des auteurs que j'admire beaucoup pour leur travail, pour la vie qu'ils ont menée, pour ce à quoi ils sont parvenus, l'art qu'ils ont pu atteindre. Bien sûr que j'admire des gens, mais... Mon amour profond dans la littérature, il va pas vers les auteurs, il va vers les narrateurs des livres que j'ai aimés.
Et c'est un mot auquel on pense beaucoup d'ailleurs, en lisant Vertu et Rosalinde, on y reviendra, mais qu'est-ce que c'est que la voix de narration ? On y pense beaucoup, parenthèse.
Oui, oui.
Donc c'est narrateurs ou narratrices qui vous ont appris à lire ?
Oui, et à lire et à vivre. Surtout, parce que pourquoi est-ce que j'ai lu c'était pas pour me distraire. Moi, j'ai lu pour apprendre à vivre, parce que j'avais le sentiment...
Mais en sachant que vous faisiez ça ?
Oui, oui, ça je l'ai su. Alors peut-être pas à 10 ans, mais à 16 ans, oui, oui, oui.
Concrètement, vous vous disiez, c'est là que je vais apprendre à vivre.
Oui, oui, parce que j'avais l'impression, pour des raisons très étranges, que je ne m'explique pas d'ailleurs, puis c'est pas la peine de les connaître, pas toujours besoin de connaître les causes de tout. Brodsky disait ça, Brodsky disait, les causes ne m'intéressent pas, ce sont les conséquences qui m'intéressent. Je trouve ça me plaît beaucoup, cette phrase.
Certains rapports au monde.
Donc, je ne sais pas pourquoi je ne savais pas vivre, parce que pourtant j'avais reçu une éducation plutôt soutenue, plutôt bien faite, plutôt... Mais voilà que je me retrouve, Dieu sait pourquoi, Dieu sait comment, à ne pas savoir vivre. Et vraiment comme Robinson, Crusoé, à me retrouver sur une île sans rien et à devoir tout réinventer, tout reconstruire si je voulais survivre, si je voulais m'abriter du mauvais temps, si je voulais manger, si bon manger j'exagère peut-être un peu, mais enfin voyez, il fallait que j'apprenne. Non, et quand je dis qu'il fallait que j'apprenne à vivre, dans mon cas, je pense que ça concerne beaucoup le rapport avec autrui. C'est comme si c'était comme maintenant j'ai un tout petit peu appris, je sais encore quasiment rien, mais enfin je peux faire illusion maintenant. Mais quand j'étais jeune, je ne savais pas du tout ce que c'était que le rapport avec autrui, comment aller vers autrui, comment je ne savais pas ça. Pourquoi, Dieu sait. Mais voilà, et donc j'ai lu entre autres, de la littérature, en me disant que j'allais apprendre à aller vers l'autre, à établir avec autrui un rapport normal, enfin aimable, voilà, et... C'était pas forcément, en réalité, c'était pas forcément la bonne
méthode.
La bonne méthode. j'aurais peut-être mieux fait d'aller voir un psy à cette époque-là. Mais j'ai cru que c'était la bonne méthode. Alors, j'ai appris un petit peu. Oui, j'ai quand même appris un petit peu à vivre grâce au livre. Mais j'ai appris beaucoup d'autres choses.
Comme quoi, par exemple?
J'ai appris, j'ai appris à écrire en lisant tous ces romans et ces correspondances et ces mémoires. Je n'ai lu quasiment que de la littérature. Hein. Je lis très peu d'autres choses que de la littérature. Mais dans la littérature, aussi bien le roman, les mémoires, j'ai lu beaucoup de théâtre, le théâtre du 18e que j'adorais à une époque, enfin bref. Donc tout ça m'a appris, en plus de m'apprendre un tout petit peu à vivre, ça m'a appris pas mal à écrire. Ouais.
On va parler de votre livre juste après cette chanson de Léonore Boulanger, « Les arbres des villes », empruntée à l'album « Les points et les détours », paru en 2010, ce disque. Cette chanson, elle dit, non sans malice, que les arbres des villes ont sa vertu, à elle, à celle qui chante, entre leurs branches.
Un lundi en avril, au vent du matin, la terre se défile, caquin. D'un air ballerine s'en va et s'en vient, mais ne se détourne pas. Pour que le jour rallonge, j'allonge le pas. Le mardi à 11h, le mois de mai joli me visite le cœur et fait taire mon ennui. Ce mercredi de juin, à l'étude à 5h, il avait pris ma main. Des romans et des fleurs, il y en avait plusieurs, il n'y en a plus qu'un. Les arbres des villes, je ne les vois que le dimanche. Les arbres des villes ont ma vertu entre leurs branches, ont ma vertu entre leurs branches. Les arbres des villes, je ne les vois que le dimanche. Les arbres des villes ont ma vertu entre leurs branches.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
On ne bazarde jamais assez. J'aime que tout le monde soit content. J'aurais aimé avoir avec Ovid une petite conversation. Voilà comment parlent les voix de la narration de votre livre Anne Serre. Ce livre séquencé 33 fois, l'âge du Christ, pour faire entendre un certain rapport à la vie et à la littérature, lesquels ne sont jamais loin de se confondre. Concrètement, des chapitres de quelques pages, 2, 3, 4, une situation sans préambule, des êtres au nom-prénom plus qu'évocateur et la possibilité, tenue grande ouverte, de converser avec tout le monde, les mortes, les vivants, les autrices, les personnages, les amis et les chemins. Vertu et Rosalinde a paru aux éditions Mercure de France et on continue, plutôt on commence d'en parler avec vous, Anne Serre. J'ai utilisé plusieurs termes ou bien tournent autour du pot ou bien, vous en jugerez, tentent d'être le plus précis possible. J'ai dit les voix de la narration, j'ai dit 33 séquences. Pour essayer de rendre quelque chose de la spécificité de la construction de ce livre, est-ce que vous voulez nous dire quelque chose à ce propos ?
Oui, volontiers. Volontiers.
J'aurais pu dire juste, en laissant tout le monde se débrouiller, c'est un roman, comme c'est marqué sur la couverture.
Oui, oui. Alors j'ai proposé à mon éditrice de l'appeler roman. Elle était d'accord avec moi, ce qui m'a beaucoup touchée. Parce qu'en effet, à mes yeux, c'était un roman. Je vois pas pourquoi un roman irait d'un point à un autre en ligne droite. Voilà. Et on peut aussi construire un roman avec un certain nombre de scénettes, d'historiettes. J'ai une seule narratrice dans ce livre qui revient dans chacune des historiettes. C'est la même narratrice qui raconte quelque chose qui la concerne, de son enfance, de sa jeunesse, d'avant-hier. Voilà. Donc je trouvais que cette voix unique, même si la voix est changeante comme nos voix à tous, c'est-à-dire qu'il y a des jours où on est plus gai, d'autres jours où on est plus mélancolique, enfin bref.
Oui, j'ai dit les voix de la narration, c'est j'aurais ça. Pu dire la voix des narrations.
Voilà.
Mais il fallait qu'il y ait quand même un pluriel, vous êtes d'accord avec ça, Anne Serre ?
Oui. Il y a des voix différentes, elle n'a pas une voix unique, cette narratrice. Elle est tantôt enfant, elle est tantôt plus enfant dans sa manière de penser. Elle est plutôt comme une espèce de vieille sage. Voilà, c'est ce qui nous arrive à tous, enfin à toutes, plusieurs fois dans la journée, ouais. Même dans une heure. Voilà, donc c'est... en effet, il y a une narration... sur diverses notes, hein, finalement.
Est-ce qu'on peut aussi avoir quelque idée de quand est-ce que vous l'écrivez, comment vous l'écrivez ce livre, puisque vous vous dites « je ne me lance pas dans un roman qui irait d'un bout à l'autre avec un seul personnage, une seule narration et en ligne droite ». Est-ce que l'écriture, le chantier d'écriture ressemble à la forme du livre ?
Oui, absolument. Oui, alors, c'est-à-dire ce livre, je l'ai écrit en commençant par le début du livre, tel que vous le voyez quand vous ouvrez le livre, et je l'ai terminé, avec voilà. Je n'ai pas construit le livre avec des morceaux par-ci, des morceaux par-ci. J'écris jamais comme ça. J'écris toujours, quels que soient les livres, j'écris toujours, d'un trait, sans modifier le lieu de tel ou tel passage, etc. Alors, la seule chose que je fais quand j'écris un livre, et je l'ai fait beaucoup avec ce livre-là, c'est que je coupe beaucoup, je bazarde.
Bazarde jamais assez.
Voilà, comme dit ma narratrice, je pourrais reprendre ça. Je coupe beaucoup, par exemple, j'écris deux historiettes et puis j'en écris cinq. Et les cinq suivantes, finalement, je trouve qu'elles ne vont pas dans ce livre-là. Mmh. Et je les coupe. Et puis, c'est ainsi jusqu'au bout. Donc, la seule chose que je fais de très visible quand je suis en train d'écrire, c'est jeter. C'est jeter. Sinon, les choses progressent régulièrement.
Au profit de quoi, selon vous ?
Pardon ?
Vous bazardez au profit de quoi ?
Alors, à la fois d'une densité. C'est très important pour moi que ce soit dense, que ce soit comme un fruit, que ce soit tellement dense, d'ailleurs. Ça m'amuse. En fait, j'aime bien construire des pièges, je crois. Et j'aime construire quelque chose qui est tellement dense qu'on ne peut pas y entrer. Alors, on tourne autour, on essaie de se glisser par des interstices. Je ne sais pas pourquoi ça m'amuse. Ça m'amuse. Si, je sais un petit peu pourquoi.
C'est parce que c'est sauvage. Ça fait un texte très sauvage, très libre aussi.
Oui.
On ne peut pas trop y entrer.
Mais c'est pas, quand je dis ne pas y entrer, c'est pas
hermétique, hein.
Non, pas du tout, c'est pas ce que je veux dire. C'est que, plutôt qu'on ne sait pas par quelle boule prendre. Voilà, c'est plutôt ça que je devrais dire. On ne sait pas trop par quelle boule prendre. Et moi j'aime bien les livres, qui m'ont fait cet effet-là. Je pense à Bartleby, par exemple. Et on le tourne dans un sens, on le tourne dans un autre, on le renverse, on ne sait pas par quelle boule prendre.
Ni comment entendre cette fameuse phrase.
Voilà, c'est ça. Voilà. Et j'aime bien ces livres, on pourra en citer plusieurs, même La Métamorphose, c'est la même chose. Ou même, y a des livres comme ça qui sont des questions. J'aime bien qu'un livre soit une question et pas une réponse.
Vous faites une très grande place, je le disais, à la forme que peut prendre une conversation, mais tous azimuts. Ça peut être une conversation entre amis, ça peut être une conversation avec les morts, ça peut être une conversation évidemment avec des livres, ça peut même être une conversation avec l'histoire littéraire et un motif dans la littérature ou un personnage dans la littérature. On a l'impression que les portes de la conversation sont grandes ouvertes. On va écouter un premier extrait de Vertu et Rosalinde.
Ce que j'aime bien avec Berthe, même si parfois cela m'énerve aussi, c'est qu'elle répond toujours à côté. Chez elle, ça atteint un tel niveau que cela ressemble ou à du grand art ou à une maladie mentale. Et elle ne le fait pas exprès, ce n'est pas pour se rendre intéressante, c'est que réellement, elle pense comme cela, comme si, au moment de répondre, une connexion dans son cerveau, chez les autres en ligne droite, faisait chez elle un coude. D'autres que moi ne supportent pas cette caractéristique de mon amie. Ils croient, on les comprend, que Berthe n'écoute rien, qu'elle est absolument indifférente à ce qu'on lui raconte, qu'elle est égoïstement centrée sur ses préoccupations et que cette absence d'à-propos a même quelque chose d'insultant. Quant à moi, peut-être parce que j'aime bien la chose littéraire, je trouvais même assez belle et assez inventive cette manière de répondre qui n'était pas une non-réponse, mais une réponse inattendue, oui, un peu comme dans ces dialogues de disciples avec leur maître zen, sauf que chez Berthe, il n'y avait aucun désir d'enseigner quoi que ce fût, et encore moins d'une manière cryptée. Cela faisait plutôt des poèmes d'Ada. « Tu sors ce soir ?»« Moi. » »« J'adore le verbe se dévêtir, Berthe. » est-ce que ta mère avait la même manière de répondre que toi, moi ? Je ne sais pas si je t'ai raconté que j'ai revu Patricia, Berthe, etc. Nous pouvions avoir des conversations de la sorte toute une après-midi, et quand je rentrais chez moi, en chemin, je me demandais toujours si je pouvais considérer que j'avais eu une vraie conversation avec mon amie, ou pas du tout, et la réponse était toujours oui, nous avions vraiment échangé, nous nous étions vraiment dit des choses. Mais comme deux textes en regard dans un livre ouvert, qui à première vue n'auraient aucun rapport entre eux, mais à seconde vue, en aurait peut-être bien un, tellement riche et tellement mystérieux que ça valait vraiment la peine de continuer.
C'est un premier extrait de votre livre « Vertu et Rosalinde » Anne Serre, où il y a un mode de conversation avec l'ami Berthe, mais il y a plein de modes de conversation. Et vous disiez tout à l'heure que peut-être ce que vous faites le mieux dans le monde, c'est de lire, mais il semble que vous ayez en effet une très grande capacité à lire des modes de conversation et à les rendre en précision. Là, par exemple, à rendre cette impression jouissive, mélancolique, trompeuse d'une conversation qui pourrait paraître n'avoir rien à voir, mais qui en fait vaut vraiment le coup d'avoir eu lieu. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette forme-là que prend la vie parfois, la conversation ?
J'ai toujours été très sensible à la manière de parler des gens que je rencontre. Et ça, c'est vraiment une chose ancienne. Je me souviens quand je suis arrivée à Paris pour y faire mes études. Je venais de province et je suis arrivée à Paris pour entrer en Hippocagne, etc. Et donc, j'étais dans un foyer de jeunes filles. C'est là que je raconte ça parce que c'est là que j'ai remarqué ça. Mmh. Et donc, j'avais 17 ans. Et je me rappelle que j'étais intéressée par une fille qui était dans ce foyer de jeunes filles. Elle était sympathique, mais à cause de sa manière de parler, qui avait quelque chose de légèrement différent de la manière de parler des autres. Et que je n'arrivais pas bien à définir ou à. Et j'écoutais ça de manière très, très attentive. Et depuis, je me suis rendu compte, donc ça fait longtemps, que j'écoute beaucoup. J'écoute. Je suis sensible à ça chez quelqu'un, et peut-être en particulier chez les femmes, je ne sais pas pourquoi, à leur manière de parler, à leur conversation. Et je dirais même que c'est ce qui fait que je me lis ou non. Je deviens amie ou non avec des femmes, selon que leur manière de parler m'intrigue ou non. Il faut qu'il y ait quelque chose qui m'intrigue un peu, qui soit à découvrir. Si la personne parle d'une manière que je connais déjà, voilà, ça m'intéresse moins. Mais s'il y a quelque chose dans la parole de l'autre, dans la manière de converser de l'autre, c'est très intéressant cette question que vous me posez, parce que je ne me la suis jamais vraiment posée comme ça.
Ouais, je peux pas vous croire.
Si.
Et la promenade, c'est les deux énormes motifs de Vertu et
Comme ça, je me suis pas dit. C'est en vous parlant, là, c'est en vous répondant que je me. C'est bien, ça ouvre quelque chose là pour moi.
Mais parce qu'en plus, il y a d'autres manières d'entendre la conversation. C'est que vous rendez le mode de la conversation en amitié, donc entre deux humains, mais vous rendez aussi ce que c'est que d'avoir une conversation réelle, concrète avec la littérature. C'est-à-dire que vraiment, votre livre converse avec l'histoire de la littérature, sans être pédant, sans faire montre de son érudition, mais clairement, il est en lien, exactement comme une conversation. Et puis, il y a autre chose qui est plus subtile encore, qu'on a la sensation que votre livre, exactement comme la conversation avec l'ami Berthe, votre livre est en conversation avec une autre matière, un à côté, un hors-champ, qui est peut-être votre matière biographique, qui est peut-être vous, qui est peut-être autre chose, je ne sais pas, mais et qui ça est laissé plus ou moins dans l'ombre, mais ça converse. Et nous, c'est comme si on récupérait le substrat de cette conversation avec un ailleurs.
Oui.
Tout le monde me suit derrière le poste ? J'espère que tout le monde me suit.
C'est très intéressant ce que vous dites.
Donc c'est plein de modes de conversation.
Oui, je vois très bien. Alors, quand vous parlez de la conversation avec la littérature, ça c'est quelque chose dont j'ai très conscience. J'ai très conscience que je bavarde. Mm. Comme vous dites, c'est pas... Je bavarde, comme je bavarde avec des amis, je bavarde avec les livres.
Mais aussi avec Ophélie, avec Hamlet.
Et avec les personnages.
Par exemple, vous dites, la narratrice dit, j'aimerais bien avoir une petite conversation avec Ovide. Bon, je sais pas, moi, je trouve ça hyper drôle. Et puis surtout, ça démontre à quel point c'est juste là, c'est juste à côté de vous, quoi. Ovide, c'est tout près.
Oui, c'est très
accessible.
Oui, c'est ma famille. Tous ces gens dont je parle, Hamlet, Ophélie, Ovide c'est ma vraie famille. C'est avec eux que je vis. Enfin, voilà, les gens avec qui on vit, c'est votre famille, en principe, voilà. Donc, ce sont les gens avec qui je vis depuis, je peux dire presque toujours. Donc, on bavarde.
On va écouter l'autrice Joyce Carol Oates dans une archive de 2024.
It is a story of grief.
C'est une histoire de deuil.
I'm so fascinated by the phenomenon of
Mais je suis aussi fascinée par ce phénomène des indices. L'idée de construire un court roman autour de cette structure imposée par la découverte des indices, c'était ça qui m'intéressait. Quand on est enfant, on cherche des indices sur les visages des adultes et des autres. Des indices sur le sujet dont ils parlent, le rapport avec nous. Quand on est à l'école, on lève la main, on se met en rapport avec le maître ou la maîtresse et on essaie de deviner sur son visage des indices de la valeur qu'il vous accorde. Est-ce que les gens m'aiment bien? Est-ce que les gens me comprennent? Et donc, se saisir de ce phénomène-là, cette idée d'essayer de repérer ces indices, de les comprendre, quelque chose qui est vraiment tout le temps dans notre esprit quand on cherche du sens autour de nous, dans ce qui nous entoure. Et moi, j'adore les enquêtes et les mystères. C'est vraiment quelque chose qui me fascine.
Joyce Carol Oates, parlant de son livre 48 indices sur la disparition de ma sœur au micro de Géraldine Mosna-Savoie en 2024 sur Culture et interprété par Marguerite Capel. On l'a dit, votre livre à vous, Anne-Serre, procède de fragments, de séquençages, de courts chapitres. Et on pourrait reprendre ce terme de Joyce Carol Oates, de l'indice. On pourrait se dire qu'à un moment donné, quand même, on a très envie de jouer avec vous et qu'on prend chacun de ces chapitres comme un indice de la voix de la narration, que c'est notre manière, nous aussi, de venir sur cette piste-là. Et Joyce Carol Oates, elle met cette attitude d'humain ou de lectrice ou de lecteur en lien avec et le deuil et l'enfance. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, je dois vous dire d'abord que j'ai pas bien entendu.
Ah mince.
Parce qu'on entendait à la fois
l'anglais et le français.
L'anglais et le français en même temps. Alors, je sais pas, mais j'ai pas bien suivi. Je le regrette parce que ça m'aurait intéressé d'entendre très bien Joyce Carol Oates. Mais c'est pas grave.
Est-ce que vous voulez que je vous dise ce que j'ai compris, moi?
Oui, je veux bien, parce que c'est idiot de répondre si à côté.
Parce que j'allais vous le rejouer. Mais en même temps, vous allez remalentendre, donc c'est dommage. Donc je vais vous dire ce que j'ai compris de Joyce Carol Oates.
Oui.
Elle parle de la figure de l'enfant qui, cherchant à comprendre le réel autour de lui, et notamment dans des situations de douleur et de deuil, cherche des indices.
D'accord.
Et donc enquête en permanence, et donc chope dans le réel tout plein d'indices qui vont juste lui permettre de lire le monde, pour en revenir au début de notre conversation, Anne-Serre, et peut-être, on va dire, forme de rapport au monde qu'elle reproduit dans elle, ces récits fragmentés.
Oui.
J'espère que j'ai fait un bon résumé.
Oui, sûrement. Oui, je comprends très bien ça, mais moi, je dois dire que j'ai pas tellement cette impression de d'enquêtrice, d'avoir eu à saisir des indices pour reconstituer une vérité. C'est pas l'expérience que j'ai. Il me semble pas. Comment je pourrais la définir, cette expérience, autour de cette idée d'indice ou de.
Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que vous ne nous donnez rien? Vous disiez tout à l'heure, j'aime bien piéger. Vous ne nous donnez rien tout mâché. En tout cas, nous, on doit chercher quelques petits indices.
Oui, peut-être plutôt le lecteur, oui. Et bon, et quand je dis, alors il faut que j'apporte un correctif à ça. Quand je dis que j'aime bien piéger, je ne cherche pas à piéger. C'est pas mon but quand j'écris une histoire, évidemment que non. Mais comme on me dit souvent, le lecteur me dit me dit que il y a quelque chose de mystérieux, etc. Donc voilà. Donc je me dis, c'est ma manière de proposer quelque chose qui intrigue ou Voilà, mais je ne me rappelle plus le début de votre question. Pardon.
Oh non, là, j'ai redit deux fois Joyce Carol Oates. Je ne vais pas vous redire une troisième
d'accord,
fois.
D'accord.
Simplement, ce qu'elle met en lien avec le deuil aussi, le fait qu'il y a quelque chose dans sa manière d'écrire fragmentée qui a à voir avec le deuil. Chose qu'elle
a
beaucoup
d'accord,
travaillé quand
d'accord. même. D'accord. OK. La manière fragmentée par rapport au deuil. Oui, ça, on peut... Moi, j'ai l'impression que j'ai toujours écrit, si vous voulez, depuis le début, depuis que j'ai commencé à écrire, non pas des fragments, mais en tout cas des textes courts, que je me suis employée au cours du temps à développer. Et ça, c'est un de mes travaux, je crois, ouais, de développer des textes courts. C'est-à-dire de, alors, vous parliez d'indices tout à l'heure, peut-être de chercher dans ces textes courts, très courts parfois, peut-être de chercher en eux l'élément, le germe qui peut être développé ensuite, etc. Oui, ça me dit quelque chose sur mon travail, cette utilisation alors du fragment. Oui, au fond, c'est un fragment, la tentative d'amplifier, de développer, de faire s'ouvrir. Voilà, non, je l'entends plutôt comme ça, hein, de faire s'ouvrir quelque chose qui est à l'état de bouton ou de voilà.
On va écouter Thomas, auditeur du Book Club. Il vous a lu et comme moi, il a beaucoup ri.
Bonjour le Book Club, bonjour Anne Serre. Alors je suis très heureux de pouvoir vous poser cette question parce que la lecture de Vertu et Rosalinde m'a particulièrement réjoui et surtout j'ai beaucoup ri. Et ma question sera par rapport à ça. Il y a vraiment dans votre livre un travail, me semble-t-il, important, que ce soit au niveau de bien sûr des formules, du travail sur les mots, sur les expressions, l'utilisation des parenthèses qui sont fréquentes. Et on se sent vraiment en tant que lecteur accroché, mis dans la confidence. Complice, et je voulais savoir si ce travail-là, c'est vraiment quelque chose qui est une matière en tant que telle, un travail en soi, ou est-ce que finalement c'est intégré à votre processus d'écriture classique ? Merci pour votre réponse.
Merci Thomas pour votre lecture et pour cette question. Accrochez le lecteur. Comment y travaillez-vous, Anne Serre ?
En tout cas, je suis très heureuse d'entendre Thomas dire que je fais rire. Et vous l'avez dit aussi.
Bah moi, franchement,
ça me fait très plaisir.
Les voyageuses et voyageurs du train Nantes-Paris de vendredi à 14h peuvent témoigner du fait que j'ai ri, mais j'ai ri aux éclats, Anne Serre.
Oui, ça me fait très plaisir. Ça, je ne pensais pas du tout quand j'ai commencé à écrire qu'un jour je ferais rire. Je considère ça comme une certaine réussite, de faire rire. Moi, je ris souvent quand je lis. Hein. J'ai ri quand j'ai lu Beckett, je me rappelle. À quoi j'ai ri dernièrement ? Je me vois dans mon lit en train de m'esclaffer. Dieu sait avec qui c'était. On rit quand là ce qu'évoque Thomas ou les rires que j'ai eu moi, c'est quand je rencontre quelque chose de l'ordre de l'absurdité aussi, hein, de l'absurdité, de l'insolence complètement inattendue, de quelque chose qui est dit de manière tout à fait surprenante voilà.
Moi, je ris à l'intelligence aussi souvent.
Oui, on peut rire à quelque chose de très intelligent, c'est vrai. C'est vrai. Oui, oui, alors on rit d'une certaine manière.
Ouais, ouais. Hein, mais c'est la plus agréable,
oui,
je trouve.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Mais vous dites aussi, et on en revient à l'amitié qui est très présente dans votre texte, Anne Serre, que c'est très précieux de pouvoir rire. On riait beaucoup ensemble. Je raccrochais, la nuit était moins noire. Vous parlez de conversations amicales comme des allées-venues d'allégresse et de désespoir. Vous pensez à quelqu'un qui n'a pas près de lui quelqu'un pour lui dire des choses amusantes et comment ça sauve d'avoir quelqu'un avec qui rigoler. Je prenais conscience de la vie épouvantable des gens qui n'ont pas auprès d'eux, dans leur entourage, d'autres gens pour leur dire des choses amusantes. Il y a quelque chose du rire qui est hyper, voilà, très lié à la vitalité.
Oui, à la vitalité, quelque chose de la joie, de la joie qui est indispensable à l'imagination. Ça me paraît difficile d'imaginer sans la joie. C'est peut-être pourquoi, d'ailleurs, il y a des auteurs privés de joie qui imaginent peu. Voilà, alors cette joie, c'est une chose assez intéressante, la joie. Cette joie, c'est évidemment pas une joie qui est en vous parce que vous avez vécu toute votre vie, une vie merveilleuse. C'est pas ça, évidemment. C'est au contraire, même, bien souvent au contraire. La joie, c'est évidemment quelque chose qui se construit. C'est un choix, voilà. Et j'ai vu ça chez d'autres que moi. Chez moi, c'est un choix, mais je l'ai vu chez d'autres, je l'ai lu chez d'autres, ça. Il peut arriver un moment, et je crois que c'est une bonne décision, il peut arriver un moment dans l'existence où on choisit la joie comme attitude philosophique dans l'existence face à tout ce qui peut arriver, d'agréable, de désagréable, de terrible et de sympathique. Et cette position, c'est une drôle de position, la joie. C'est une position qui n'est pas dominante par rapport aux autres, mais qui vous, et qui ne veut pas d'ailleurs être dominante, mais qui vous exclut un peu. Ça fait penser un peu à la joie du fou aussi, cette espèce de joie qui est un choix. Ça peut faire penser à un personnage de fou. D'ailleurs, j'aurais pu appeler mon livre Portrait de l'auteur en jeune fou ou Portrait de l'auteur en clown. Hein. Alors voilà, là je rejoins ce que vient de dire Thomas. J'aurais pu appeler ce livre Portrait de l'artiste en clown. Et d'où la boucle que je fais avec ce qu'a dit Thomas, d'où le rire.
Et du coup, toute la matière est possible d'être malaxé par cette joie. Par exemple, il y a un des chapitres où vous imaginez, Anser, un grand match de foot ou de rugby ? De foot.
Il y a un ballon, je crois. Oui, il y a un ballon. Je suis pas très fort
entre les
match,
vics
mais...
et les non-vics, potentiellement des victimes de la globale violence patriarcale et sexuelle et les non-victimes de la globale violence patriarcale et sexuelle. Puis vous les regardez, et puis vous vous demandez qui va mieux se débrouiller. Puis vous êtes curieux de savoir comment vont se débrouiller les non-vics. Bref, on pourrait considérer que c'est un jeu dangereux d'exercer sa joie sur le grand thème. Très contemporain,
oui,
par exemple, des victimes de la violence sexuelle, patriarcale, domination. Et pourtant, tout roule. Le match se passe et c'est efficace. C'est une joie qui permet de penser, Anser.
Oui, oui. Et d'ailleurs, à la fin de cette scène, que je me suis beaucoup amusée à écrire...
Tu m'étonnes.
Je trouvais que j'y allais un peu fort, ouais. mais j'aime bien y aller un peu fort de temps en temps. Ça m'amuse. Enfin, on joue quand même quand on écrit. Hein, voilà. Donc, je m'amusais beaucoup. Ce qui m'a fait plaisir en écrivant cette histoire, c'est pas tellement cette scène où je m'amusais, mais c'était pas ça qui était le plus important. Le plus important, c'est la fin. C'est quand la narratrice, son amie lui dit « Alors, tu es pour qui ?» devant ce match absurde, etc. Et en fait, cette narratrice dit « Mais au fond, bon, je sais pas, je suis pour personne vraiment. Moi, je suis pour la nature, je suis pour la... je me rappelle plus ma phrase exactement. Je suis pour ce qui se passe de secret dans les bois, enfin, etc. Et elle finit par dire, je suis du côté de la métaphysique ou quelque chose comme ça. Et il y a une espèce de détachement là par rapport à ce qui se passe, à la vie qu'on mène, une espèce de détachement assez mélancolique. Qui est peut-être la vraie c'est peut-être ça que raconte cette historiette-là. C'est peut-être ce détachement qu'elle raconte plus que ce rire devant ce match de victimes contre les non-victimes, enfin tout ce qui est...
De toute façon, la question de la distance et de la bonne distance à laquelle se tenir des choses est aussi un des grands thèmes de votre livre, Anser. Et d'ailleurs, la narratrice, à un moment donné, s'adressant à Ophélie, dit « Attention, hein, attention avec la tragédie familiale. Attention, non, c'est Ophélie qui dit ça. Attention à Hamlet, à la tragédie familiale. Il faut avoir des bons outils esthétiques pour s'y risquer. Et de manière générale, ce livre dit mollo avec la tragédie.
Oui, oui. Je trouve qu'on en a un peu trop fait. Enfin bon, chacun fait comme il veut et comme il peut. Mais je trouve qu'il y a, bon, il y a une espèce de mode littéraire de tragédie familiale, où les gens racontent des tragédies familiales. Bon, ils ont bien le droit de le faire et surtout, ça a l'air d'émouvoir beaucoup de gens. Je voulais dire quelque chose qui me traverse l'esprit, qui est ressorti. Voilà. Mais
en tout cas, vous vous dites OK pour s'y risquer, mais il faut avoir les bons outils esthétiques pour le faire.
Absolument, absolument. C'est-à-dire un énième récit de tragédie familiale. Moi, je trouve ça, personnellement, je trouve ça un peu lourd. Enfin, en tant que lectrice, par exemple, je trouve ça un petit peu lourd à la longue. Par contre, qu'on me raconte une tragédie, et tous les livres racontent des tragédies familiales, les livres ne racontent que ça. Qu'on me raconte une tragédie familiale, mais d'une manière inattendue, d'une manière féroce, d'une manière, étonnante. Alors, bien sûr, je suis pour. Mais, voilà.
Il y a la conversation et il y a la promenade.
L'après-midi, nous allions faire une promenade d'une heure environ en suivant le cours d'une rivière, remontant son courant. J'adore me promener comme les romancières anglo-saxonnes dans leurs livres, me disait Vertu en souriant. Les Françaises, les Italiennes, les Allemandes ou les Japonaises ne se promènent pas tellement le long des rivières. C'est particulier aux Anglaises et aux Américaines qui vivent toujours près d'une université, non ? C'était ceci aussi qui me plaisait chez Vertu. J'avais toujours l'impression qu'elle sortait à la fois d'une autre époque et d'un livre lorsqu'elle m'adressait la parole. Ce qu'elle écrivait était assez extraordinaire. Avec son drôle de nom, elle était une célébrité au Danemark car elle était danoise. Je lui demandais si cela lui faisait plaisir d'être une célébrité. « Parfois, disait-elle, parce qu'on veut tout de même que son nom soit un nom d'écrivain, n'est-ce pas ? Mais d'autres fois, non, ça m'embête, parce que je veux rester avec mes chats, mes chiens, mes carnets et mes cahiers et qu'on me fiche la paix. » Chaque fois que je me promenais avec Vertu le long de cette rivière très bleue, bondissante, je pensais immanquablement aux promenades que nous faisions dans ma jeunesse, certains dimanches après-midi avec mon père et ma sœur disparus trop tôt, le long du Loiret, près d'Orléans. À un moment, nous passions au bas d'une grande bâtisse élégante située en haut d'une pelouse, bâtisse toujours fermée, aux murs clairs comme ceux de la maison de vacances de Vertu, qui aurait pu être, pensais-je alors, la villa du personnage de Mars sur les rives du lac de Zurich, un sanatorium, ou le curieux prieuré de Gurdjieff à Avon, France, où Catherine Mansfield était morte. Et chaque fois que nous apercevions cette longue façade blanche aux volets fermés, j'avais l'impression que le destin nous adressait là l'un de ces signes impassibles et cruels. Que cela signifiait quelque chose pour l'un d'entre nous, un arrêt de mort en somme. Et je savais que cela concernait ma jeune sœur, qui la regardait toujours avec un drôle d'air, s'attardant à la contempler tout en se retirant en elle-même, à tel point que mon père, un peu en avant sur le chemin, se retournait pour lui lancer « Allons, allons, dépêchons-nous, le jour tombe, il va falloir rentrer ». Et ma sœur ne détachait ses yeux de la bâtisse funèbre qu'avec réticence et comme une sorte de regret. Elle avait même un sourire, en la quittant, que je n'aimais pas et qui me faisait peur. Ce que j'aimais avec Vertu, au cours de notre promenade, c'est qu'au moment où toutes ces images me revenaient avec force et où moi-même je m'immobilisais un instant, elle me prenait par le bras et me serrait contre elle, disant « Allez, on s'en retourne ».
Il y a beaucoup de promenades dans votre livre, Anser, et beaucoup de chemins. Et il y a un entremêlement entre le verbe, la langue et le dessin du monde, le paysage. De la même manière que je vous ai demandé qu'est-ce que vous aimez bien dans la forme de la conversation, idem, qu'est-ce que vous aimez bien dans le parcours, dans le cheminement, dans la promenade ?
Ce que j'aime dans la promenade, c'est...
En littérature, j'entends, hein ?
Oui, oui. Ah oui, vous voulez dire dans la promenade...
Pourquoi vous faites faire ça au corps, dans vos livres ?
Oui, oui, oui. Pourquoi les gens ne font pas de la bicyclette, vous voulez dire ?
Oui, pourquoi ils marchent ? Je sais pas, ou pourquoi ils sont pas assis devant un ordi, ou pourquoi ils font pas leurs courses, pourquoi ils marchent dans des paysages ? Pourquoi ça a son importance ?
Oui. Peut-être parce que j'ai pas une réponse comme ça toute faite, mais peut-être parce que j'ai toujours eu un grand amour pour les écrivains marcheurs et qui parlent de la marche, et je pense en particulier à Walser. Bien sûr. Et je ne pense même qu'à Walser, pour vous dire la vérité. Je ne pense qu'à Robert Walser. C'est-à-dire, dès qu'on dit le mot marche, voyez, dès que vous dites le mot marche, je pense immédiatement aux photos qu'on a de Robert Walser avec Carl Zelig. On a des photos grâce à Carl Zelig, où Walser est incroyable avec son parapluie. Et je le vois, mais vraiment comme s'il était là devant moi. Il a son costume un petit peu fin 19e. Bien coupé. Il a toujours un parapluie au cas où il pleuvrait pendant sa promenade. Et il a cet air absent et en même temps lumineux, je sais pas. Et il marche. Il a passé sa vie à marcher, cet homme, et à écrire, et à marcher, et à écrire, et à ne faire que ça. Et il est mort en marchant. Il est mort. Vous savez, il y a des acteurs qui meurent sur scène. Il y a des acteurs qui meurent en jouant, peut-être. Walser, il n'est pas mort en écrivant. Il est mort en marchant. Et on l'a retrouvé dans un pré qu'il était en train de traverser avec son parapluie. Je me rappelle plus s'il y a le parapluie, parce que j'ai les photos du corps de Walser dans la neige. Honnêtement, je ne vois pas le parapluie, mais je vois le manteau, je vois les pas dans la neige, je vois comment il est entré dans ce pré, pourquoi il avait envie, plutôt que de rester sur le chemin, il a voulu entrer dans ce pré, je comprends très bien pourquoi. voilà ce que c'est le chemin pour moi. C'est Walser, donc c'est la littérature. Robert Walser étant pour moi et pour beaucoup de romanciers contemporains une espèce de modèle saint, un peu comme a été Kafka, mais comme est toujours Kafka, mais comme voilà, c'est notre nouveau saint Robert, saint Walser. Et quand on pense promenade, on pense Walser. On traduit le mot promenade en Walser. Si je voulais écrire un récit sur la promenade, il y aurait peut-être que le mot Walser, qui voudrait dire se promener, écrire et être écrivain.
Le book club continue. Et à cette heure-ci, on se fait agenda dans le Book Club. Vous pouvez nous envoyer des informations, d'événements, de rendez-vous, de festivals, de rencontres autour du livre, de l'écriture, de la lecture. Aujourd'hui, on vous parle d'une exposition conçue par le Centre des Monuments Nationaux et la BNF, qui est à voir à la Cité Internationale de la Langue Française, située dans le château de Villers-Cotterêts, dans l'Aisne. L'expo s'appelle « Trésors et secrets d'écriture, manuscrits de la Bibliothèque Nationale de France, du Moyen-Âge à nos jours ». Elle a ouvert le 5 novembre et puis elle peut se visiter jusqu'au 1er mars prochain. Elle illustre la manière dont, au fil des siècles, l'objet manuscrit a été le support matériel et le témoin historique de l'évolution de la langue française, de ses usages divers et de ses métamorphoses, parce que c'est tout le propos de ce château de Villers-Cotterêts. On peut voir plein de choses, des parchemins, papier, des graphies élégantes, convulsives. On peut voir des cahiers d'écriture de « À la recherche du temps perdu » de Marcel Proust. On peut voir des brouillons de l'éducation sentimentale de Flaubert. Pourquoi pas la reine Margot d'Alexandre Dumas, le manuscrit de la caisse d'El Saint Graal. Plein de choses à Villers-Cotterêts. On mettra le lien sur la page du Book Club franceculture.fr.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
J'ai dit de votre livre au début de l'émission, Anser, que c'était un livre joueur. Et nous, dans le Book Club, on aime bien jouer aussi. On a conçu un jeu qui s'appelle Le Grand Jeu des Pages Musicales. Et donc, dans les livres, on cherche toujours des endroits où la musique surgit. Et on propose à nos amis auditrices et auditeurs d'en faire pareil. Donc, le principe est simple. Vous êtes en train de lire n'importe quel bouquin et un air musical surgit. Hop, vous prenez l'extrait et vous nous l'envoyez ou bien via le compte Instagram du Book Club ou bien toujours via cette adresse mail lebookclub@radiofrance.com. C'est bien qu'on a toute une collection d'extraits de littérature où la musique surgit. Et dans votre livre, à un moment donné, la musique surgit. Vous savez où ?
Non, pas du tout.
Bah, surprise. Il sanglote. Mon grand-père, si sérieux, sévère et gentil avec son bureau, ses affaires, ses costumes, trois pièces, son amour pour les chiens, la chasse, la campagne au petit matin, sa déférence envers ma grand-mère, Jeanne, qu'il adore et admire, ses bottes, sa barque, sa bague en or, sa manière parfaite de conduire, son efficacité pratique. Il sait tout réparer. Il vient d'une famille riche de paysans. Et ses yeux humides d'émotion lorsqu'il entend à la radio la chanson de Michel Delpech, Le Chasseur. Il sanglote. Thérèse, qui est aussi du même village que lui, comme ma grand-mère, ils se sont tous connus enfants et ont joué ensemble petits, lui met le bras sur l'épaule. « Ne pleure pas, Édouard, » lui dit-elle.
Il était 5 heures du matin, on avançait dans les marais, couvert de brume. J'avais mon fusil dans les mains, un passereau prenait au loin de l'altitude. Les chiens pressés marchaient devant dans les roseaux, par-dessus l'étang. Soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux par-dessus les champs montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil brillait.
Je ne savais pas que cette chanson s'appelait Le Chasseur. Et pourtant, c'est clair, non ? Je ne sais pas, Anser. Mais... Du coup, bah voilà, moi, je chantais la Méditerranée, les oies sauvages et tout ça. Et en fait, c'est une histoire de chasse.
Oui.
Tragique.
Oui, oui.
C'est là que la musique surgit dans votre livre. Ça vous est revenu quand même ?
Oui, bien sûr, bien sûr. Mais voilà, quand vous avez parlé de musique dans le livre, je me suis dit, tiens, il y a peu de musique dans mes livres, je crois. Parce que j'écoute peu de musique, parce que je ne suis pas proche de la musique, malheureusement. Donc je me disais, elle n'en trouvera pas si elle veut de la musique dans mon livre. Comment va-t-elle faire ? Il va falloir qu'elle cherche, mais elle ne trouvera pas. Il faut que je la prévienne, il ne faut pas qu'elle cherche pour rien. Enfin bref. Donc je suis très contente, en effet, qu'il y ait cette chanson. Moi qui ne m'aime pas, que je trouve un peu vintage, mais qui a son charme. Et voilà.
Merci Anser d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Pour parler de Vertu et Rosalinde, paru aux éditions Mercure de France. Au son aujourd'hui, c'était Paul Guigue, à la réalisation Anna Holweck. Et merci beaucoup à toute l'équipe du Book Club, particulièrement à Mathilde Wagman aujourd'hui. Toutes ces personnes qui m'aident à penser, préparer, programmer les émissions que vous pouvez réécouter sur franceculture.fr et pourquoi pas continuer la conversation, ce mot qu'on a prononcé, via le compte Instagram du Book Club animé par Alexandre Alaïbekovitch.